Alors, les premiers cafés mortels, ils ont eu lieu, les premiers, dans le cadre d'Écologie au quotidien. Et c'est Anne Tesson qui avait demandé, enfin qui en avait parlé. Et Michel connaissait déjà les cafés mortels et Bernard Cretaz et tout ça. Donc, il y a eu un premier café mortel qui a été fait. Et puis, l'année d'après, il y en a eu un deuxième, il y a eu un film. On ne mourra pas d'en parler. Et ensuite, une discussion. Dorine était là, moi aussi, il y avait quelques autres personnes. Et à la fin, on a dit, mais nous, on voudrait continuer. Voilà. Et donc, c'est comme ça que ça a démarré, comme ça. Il y a eu un temps de latence parce que, voilà, on est sortis d'Écologie au quotidien. Et voilà, ça va démarrer.
Voilà, on organisait des cafés mortels, on va dire, à partir du printemps 2022. Jusqu'à début 2024, de façon régulière, une fois par mois. Une date toujours à Die et la date suivante dans le Diwa, le Haut-Diwa. Et voilà, et comme Jeanne disait, il y avait un petit moment de réorganisation de l'équipe. On n'a pas organisé des cafés mortels pendant un an et demi à peu près, jusqu'à là, janvier 2026. Et là, c'est reparti, on a reconstitué un collectif d'habitantes, et on s'appelle les Cafés Mortels du Diwa. Et maintenant, on est à nouveau prête à proposer les cafés mortels de façon mensuelle. Le format du café mortel, nous ne l'avons pas inventé. C'est un sociologue et ethnologue suisse qui l'a inventé en 2004 pour replacer la mort au centre de nos conversations. Donc, il s'appelle Bernard Cretaz. Et il avait organisé entre 2004 et 2010 une quarantaine de cafés mortels, principalement en Suisse et aussi quelques-uns en Belgique et en France, donc plutôt dans le monde francophone. Mais en tout cas, il a lancé un élan pour replacer la mort au centre des discussions, le détabouiser, vraiment le replacer au centre. Et aujourd'hui, cet élan a permis que dans environ 80 pays du monde existent des cafés mortels, donc dans le monde anglophone, ça s'appelle plutôt les Def Cafés. Mais en tout cas, il y a tout un réseau mondial qui organise aujourd'hui des cafés mortels. Et l'objectif, c'est vraiment de libérer la parole et créer un espace tant pour s'écouter et mettre les mots sur quelque chose que des fois on n'ose pas dire, même des fois juste le simple mot « la mort ». Qui peut faire peur quand on n'arrive pas à dire. Donc ça, l'objectif, c'est de libérer cette parole et de mettre des mots aussi sur des pertes qui nous ont marquées de façon terrible dans nos vies. Et le troisième objectif, on peut dire général, c'est de réaliser ce qu'on a vécu, créer un savoir commun. En fait, ce que j'ai vécu peut aider aussi les autres qui m'entourent, que je ne connais pas forcément, mais que je rencontre dans les espaces du café mortel et à qui je peux transmettre aussi mon vécu. Et peut-être ça va les aider aussi dans leur histoire de vie. Et surtout, l'effet positif de tout ça, c'est que on se sent pas trop seul, en fait. On constate qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu des choses similaires et que les deuils ou les peurs qu'on a face à la mort, on n'est pas seul dans le monde. Il y en a d'autres qui ont ces peurs ou ces deuils-là. Et ça fait du bien d'échanger ensemble.
Association Thanatosphère, avec
Agathe Bénard.
Agathe Bénard, qui est l'animatrice, et donc qui est... On a côtoyé, on est allé à des réunions, etc. Donc on est toujours en lien avec elle, on reçoit les infos, etc. Mais elle diffuse beaucoup aussi sur les autres départements. Mais ce qui était intéressant avec Bernard Cretaz, c'était un anthropologue, mais c'était un homme qui avait habité un petit village dans la montagne où les choses étaient simples, c'est-à-dire les grands-parents disaient... Ça, c'est le tiroir de la mort. Et dedans, il y avait ce qu'il fallait pour quand je mourrais. Et puis, on disait, dans la cave, il y avait une barrique avec du vin. Ce vin, il est pour quand je serai mort. Et le fromage aussi. Et vous ferez ça. Donc, les choses étaient en place. C'était normal. Donc, moi, ça m'intéresse beaucoup. Et d'autres aussi. De préparer ça aussi. De dire, les enfants, ils ne se retrouvent pas. À appeler les pompes funèbres, comment se réapproprier ça, ce domaine-là, et en faire quelque chose de naturel. En parler, moi j'ai toujours parlé de l'amour à mes enfants en rigolant, ou disant voilà, vous marquerez ça sur ma tombe et tout. Mais maintenant, je suis dans l'organisation plus, voilà, de dire, on nettoie, on dégage, et puis on nettoie ce qu'on a derrière nous aussi, quoi.
On a comme mission aussi d'essaimer ces cafés, c'est-à-dire on est allé concrètement à Grenoble, par exemple, ou en Ardèche, et on a rencontré des collectifs d'habitants, hein, c'est pas forcément des associations, mais des habitants qui ont entendu parler de ces cafés mortels ici, et qui nous ont demandé de venir pour leur transmettre, c'est pas un apprentissage ou une formation, mais leur transmettre et d'animer des cafés mortels sur des différents lieux. Et ensuite, ces collectifs d'habitants ont pris le relais et organisent aujourd'hui les cafés mortels. Donc en fait, tous ceux et celles qui organisent ça aujourd'hui en France ont cette idée en tête d'essayer aussi pour que, comme je disais aujourd'hui au début du café mortel, l'objectif c'est qu'on habite pas très loin d'un café mortel, peu importe où on habite en France.
Faire ensemble et se soutenir, s'écouter, être envers des bienveillants, enfin, envers les uns envers les autres. Là, ce qui était super, c'est qu'il y avait des jeunes et des moins jeunes et des très, enfin, plutôt âgés, quoi. Et moi, c'est ce qui me touche aussi à chaque fois, c'est que vraiment, il y a des gens, des jeunes qui viennent et qui ne se sont jamais vraiment posés de questions, en fait, et qui, du coup, voilà, commencent un cheminement. Et puis des personnes beaucoup plus âgées qui sont déjà dans le chemin, ou des très très âgés qui savent que c'est pour bientôt. Et tout ça, c'est très très riche, quoi, justement. Et c'est comment on vit ensemble et comment on casse ce tabou et comment on reparle de la mort qui est quand même, qui fait partie de la vie. Ou, voilà, et comment on peut tous être ensemble. Enfin, ça,
moi, il me semble que ce qui est important aussi, pour moi en tout cas, c'est d'interpeller ceux qui s'occupent du commerce de la mort et tout ça, et de se réapproprier un pouvoir et de dire comment vous faites. Nous, on aimerait ça. On se renseigne sur ce qui se passe en Belgique, en Allemagne, sur tout ce qui est une autre façon de s'occuper des corps, et interpeller les pompes funèbres, communiquer avec eux. Enfin, on a été en lien beaucoup avec une jeune qui était là. Et de, voilà, de dire, mais nous, on peut demander autre chose. Et Adi, c'est quand même très, comment on va dire, en alerte là-dessus. Hein, c'est un endroit parfait pour ça. Hein, tout le monde a envie de faire changer un peu.
Oui, c'est prendre conscience qu'en fait, qu'on peut faire autrement. Et on a l'impression qu'on n'a pas le droit. Et en fait, en parlant un peu, en se posant, on a d'autres droits. Enfin, ouais. Et que du coup, on peut s'approprier, on peut faire une cérémonie différente, on peut faire des rituels différents, enfin, tout est possible. Enfin, bon, il y a des choses, effectivement, par rapport à la loi, évidemment, mais pas tant que ça, finalement. Et qu'on n'ose pas, en fait, et on n'imagine pas que, justement, on peut faire autrement. Et ça, c'est en partageant et en...
Autrement, il est moins cher aussi. Souvent, on a l'idée, voilà. Oh là là, à la mort, je n'aurai pas le moyen de me la payer. Mais en fait, on est en contact avec plein de partenaires qui nous démontrent, on a des moyens de la payer. Et en fait, personne ne peut rien nous imposer. Il y a des lois, mais il y a plein d'interstices et plein d'endroits, des créativités aussi, qui ne coûtent pas forcément très cher. Donc en fait, c'est aussi leur montrer, mais en fait, ce n'est pas si cher qu'on imagine. C'est les pompes funèbres un peu commerciales qui... essaye de nous faire croire ça, mais en fait, on essaye d'en parler aussi et mettre la lumière aussi sur des nouveaux métiers comme les tanadoulas. C'est quelque chose de nouveau aussi, des personnes qui accompagnent des personnes mourantes. Des fois, on se retrouve en tant que membre de famille un peu trop dans l'affectif et l'émotion d'accompagner quelqu'un proche, et on peut faire appel au tanadoula pour garantir et accompagner, garantir un accompagnement plus douce, adaptée, et peut-être même faire les ponts avec les membres de famille qui sont loin et avec qui la personne qui va partir a envie de parler. En fait, on a envie aussi de créer ces liens entre ces tanadoulas, sensibiliser le public que ce métier existe, on peut en faire appel. Et voilà, toutes ces nouveautés, on va dire, on a envie d'y mettre la lumière.
En fait, ça se fait très simplement. Enfin, à chaque fois, c'est assez. Il n'y a pas vraiment de... Il y a un cadre qui est posé, deux, trois directives, et tout le monde joue le jeu vraiment de façon très libre, c'est fluide, chacun parle comme il n'y a pas trop de réaction en général, c'est assez... Enfin, les gens sont vraiment très respectueux. Ouais. C'est dans l'écoute, dans l'émotion.
Et aussi la façon comme on le propose régulièrement, une fois par mois, en fait, on constate aussi que ça permet à ceux qui ont vu l'affiche, qui ont vu la communication, mais n'osent pas venir, ou parce que ça ne colle pas avec les dates, ou l'horaire, ou la motivation. En fait, c'est hyper important qu'on a une régularité pour pouvoir ouvrir cet espace de parole. Et on constate, oui, plusieurs personnes nous disent, en fait, enfin, j'arrive à venir, ça fait des mois que je vois vos affiches, et aujourd'hui, enfin, j'arrive à pousser la porte. Et ça ne veut pas forcément dire que cette personne va s'exprimer, et c'est OK, on n'oblige personne à s'exprimer pendant un café mortel, mais l'effet de venir peut-être une fois, deux fois, trois fois, peut-être la quatrième fois, la personne a envie de poser quelque chose. Et il peut avoir des cas de figure aussi, on l'a vu, des personnes qui viennent, ils restent 30 minutes, ils posent une parole, ils repartent, on n'est pas obligé de rester les deux heures du café mortel pendant les deux heures. Et on ne les reverrait plus jamais. En fait, leur intérêt, leur objectif, c'est de venir poser une parole, des paroles qui étaient endormies pendant 30 ans, en fait, sur les histoires de famille, souvent, et qui sont très douloureuses. Et en fait, on sent que le poids qui a été laissé avec cette parole, c'est énorme. Et cet espace est là pour ça aussi. Et ça nous convient. On n'est pas là pour avoir un cercle de paroles toujours avec les mêmes personnes. C'est juste un espace-temps qu'on ouvre. Et on peut dire à peu près dans la fréquentation, on constate qu'on a à peu près 30 personnes, des personnes qui nous connaissent, qui viennent presque régulièrement à chaque café mortel. Et 70 personnes, c'est des gens qu'on n'a jamais vus. Donc ça touche vraiment à des publics très différents. Et voilà, ça tourne.
Après, ce qu'on essaye aussi, c'est en étant une fois à 10, une fois dans le DIWA, avec des jours différents, des horaires différents, pour essayer justement de pouvoir toucher tous les publics. Jeunes, moins jeunes, enfin, ceux qui travaillent, voilà, d'avoir des horaires très différents pour que chacun puisse venir. Et puis il y en a qui viennent plusieurs fois, qui ne parlent pas, mais je pense, enfin, c'est très riche aussi d'entendre. On n'a pas forcément besoin de. Parce que ça nous touche, parce que ça nous. Enfin, on n'a pas forcément besoin de. Mais c'est surtout entendre aussi les autres et de se sentir moins seul aussi dans un deuil, une perte, des questions. Après, il peut y avoir des questions de poser, il n'y a pas forcément de réponse à l'instant. Mais quelqu'un d'autre va pouvoir peut-être répondre. Après, ce qu'on apporte aussi en ligne, enfin, on est là aussi pour répondre à des questions s'il y a besoin aussi après, quoi. Et donc ça, c'est très important aussi, je pense, pour que chacun y trouve ce dont il a besoin et là où il en est. Le premier café mortel qu'on a refait au mois d'avril, donc c'était au café Pestel. Il était très attendu, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de pubs, mais quand même, il y avait 60 personnes, ce qui était assez incroyable, quoi. Et après, on a refait à Minglon, au Barabob, donc un petit lieu, mais qui est associé à café associatif, qui bouge bien et tout. Il y avait 30 personnes. Là, je n'ai pas compté combien on était aujourd'hui.
On était une trentaine, oui.
Voilà. Donc, tu vois, une après-midi, le prochain, c'est à Barnave, dans une salle des fêtes. Donc, ce n'est pas un café, mais c'est un lieu où on va...
On l'amène à ce moment-là.
Oui, on va amener quelques boissons. Grignoter,
enfin, quelque chose, c'est important quelquefois que les gens se déplacent.
C'est vrai que c'est plus convivial dans un café. Enfin, mais bon, après, c'est un lieu où on peut se poser, se mettre. Et puis, on fait une ambiance. Enfin...
En tout cas, le créateur des cafés Mantel, il a vraiment insisté sur le fait que ce soit dans un bistrot, un café, un lieu où on va d'habitude boire un verre et discuter, papoter, pour ne pas le sacraliser, mais mettre la mort dans un lieu où on va comme ça pour papoter la vie. Un lieu où je trouvais hyper intéressant aussi qu'on a fait quand c'était encore à Dille, le café Voltaire, qui était bar tabac. On l'a fait là-bas et c'était chouette de constater les gens qui passent pour... Ils poussent la porte pour acheter un paquet de clopes et finalement, ils ne savent pas qu'il y a un café mortel. Et là, ils écoutent 5 minutes, finalement, ils restent. Il y a certaines qui se sont même exprimées. Et ça, en fait, c'est tout l'objectif aussi de... Finalement, je me retrouve dans une situation. Ce matin, quand je me suis levée, je ne savais pas que j'allais témoigner sur la mort ou le deuil parce que je ne savais pas que ça existe, cet espace-là. Et finalement, je suis partie acheter des clopes et finalement, autre chose s'est produit. Et c'est ça qu'on essaye de créer aussi, des temps de rencontre, pas prémédités, mais un peu spontanés. On peut rentrer dans la vie des gens par cette porte-là.
Il y a des thèmes qui n'étaient pas abordés du tout au début. Et puis comme le suicide, par exemple. Il y a des... Voilà, où là, les morts d'enfants très jeunes, ou les assassinats, ça commence à venir un peu. Mais c'est vrai que, voilà, et on sent que... Mais c'est global, hein, c'est sociétal aussi, il y a des choses. Si on écoute certaines radios ou quoi, on entend des témoignages, des questions qui se posent, les avortements, etc. Et les questions qui se posent derrière. Et ça, c'est super, parce que ça... Ouf.
Et il n'y a pas d'âge aussi, on peut dire, pour témoigner. Parce qu'on a eu des cafés mortels où des adolescents se sont exprimés. Ils nous ont même contacté avant pour savoir si ils et elles peuvent venir. Et on a dit bien sûr oui. Et finalement, c'était une très belle séance parce qu'elles ont transmis des choses aux personnes plus âgées. Et c'était formidable de constater qu'il y a une transmission. Peu importe quel âge on a, on peut s'influencer, transmettre des témoignages, du savoir. Et les personnes âgées, à la fin de cette séance, ils ont vraiment dit bah, merci aux jeunes, on a appris des choses de votre conscience aujourd'hui qu'on ne savait pas.
Quand on est dans l'intime, on est toujours dans le vivant.
Moi, ça me fait vraiment cheminer sur ma propre mort. Enfin, voilà, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je veux, du coup. De me poser des questions, quoi, voilà. Et puis de me sentir vraiment très vivante, du coup, c'est vraiment quelque chose d'assez fort, quoi. C'est pas du tout. Là, je lis beaucoup de choses aussi pour m'informer, parce que je découvre en fait complètement. Et je me sens, c'est pas du tout morbide. Et après, je vois bien que ça me touche parce que ça. Ça correspond à quelque chose qui a toujours été plus ou moins là, malgré tout. En fait, je me rends compte que j'ai plein de livres. J'ai déjà lu plein de choses, quand même, dans ma bibliothèque. J'avais pas et je dis, ah tiens, c'est chouette, comme quoi. Ou mon expérience de vie. Mais voilà, ça prend vraiment du sens et ça me rend vraiment, oui, très vivante.
Moi, ça me relie aux autres et ça m'aide à avancer dans mon deuil personnel, mes deuils personnels que j'ai. En écoutant les autres, je me rends compte, voilà, il y a plein de parallèles, plein de personnes qui ont vécu des choses semblables, des choses même pires. Et en fait, ça m'aide à avancer, de relativiser peut-être aussi. Et en tout cas, sur une échelle très, très personnelle, oui, ça rajoute un prochain petit pas, un pas après un autre, en écoutant les autres, et voilà, je me sens reliée avec les autres.
C'est important le rituel en tous les cas. Donc c'est intéressant d'y faire référence et de voir comment les uns ou les autres font référence pendant le café mortel.
Ou pas.
Je ne suis pas sûre que ça change quelque chose parce que mon histoire a tellement de morts dans mon histoire, mais ça permet d'entendre d'autres histoires et de partager des moments avec les uns ou les autres.